si on prenait le temps d'une rencontre, d'un portrait sans l'image mais avec le son, le temps d'une discussion avec un homme, une femme qui mêle intimement sa vie à l'art. L'invité de cette première émission de l'année est né 5 fois et a changé 1 fois de nom. Shunyo Anoto est contorsionniste. Cet art qui questionne la normalité et les limites du corps humain semble donner une ligne de conduite à sa vie comme à son travail artistique. Refuser les normes, déjouer les codes et les conventions, ne pas entrer dans un moule. Cofondatrice de la compagnie Presque Siamoise, qui a fait de la rue son principal terrain de jeu, elle aime se produire au plus près du public, propose ici un spectacle qui se joue le matin, au beau milieu d'un petit-déj, ou bien associe des parents et enfants dans un spectacle participatif qui donne à voir, dans une sincérité brute, ce qu'est la parentalité. Bonjour Shunyo.
Bonjour.
Alors, je commence direct par une question philosophique. Pour écrire les 3 derniers spectacles de la compagnie, donc, qu'on peut nommer, hein, Fall In, Carry On et Comeback, qui est un spectacle qui est en cours de création, tu as puisé dans ta vie des questions, des sujets intimes, mais qui résonnent aussi intimement avec nos vies, avec ce que nous, on traverse. Du coup, est-ce que c'est ça le projet de la compagnie Presque Siamoise ? Est-ce que c'est d'aller, en fait, non pas vouloir changer le monde, mais nous aider à regarder autrement le monde ? Est-ce qu'il y a cette idée qu'à travers des sujets qui sont intimes pour toi, qui vont résonner avec nos vies, il y a cette idée, cette ambition de nous décaler notre regard, de regarder autrement ce qu'on vit au quotidien, parce que c'est ça, ça puise beaucoup dans le quotidien, ces projets, ces spectacles.
Mais c'est vrai qu'en entendant votre question, ça me fait vraiment penser à cette ligne de conduite qu'on a depuis le début, de faire de petits riens du spectaculaire, de faire de ces petits riens de la poésie. Et je pense qu'on retrouve aussi dans ce triptyque cette idée-là, c'est-à-dire qu'on vient parler de la manière la plus authentique possible, par exemple, de Fall In, de notre rencontre amoureuse. Et dans cette manière authentique, on vient toucher les histoires de chacun, en fait. Si on venait raconter une histoire complètement dingue du prince charmant et de la princesse...
On reste à l'extérieur.
Comment se reconnaître dedans ? Alors qu'en fait, si on est juste là en train de raconter le petit rien qui a constitué un changement énorme dans notre vie... C'est là où on peut offrir la possibilité aux spectateurs de se reconnaître et de se reconnecter à ces moments-là. Pour moi, c'est précieux, en fait, ces moments d'introspection qui sont offerts au public via le spectacle.
Mais il y a une dimension un peu politique au sens noble du terme. Il y a cette idée, c'est pas un spectacle pour un, c'est pas l'idée de faire un beau spectacle pour un beau spectacle de divertissement, ce qui se respecte aussi. Mais là, il y a quand même quelque chose de...
Là, il y a vraiment l'idée de la rencontre, c'est sûr, entre les artistes et les spectateurs, mais aussi, par exemple, dans Fall In, dû à ce placement bifrontal du public, il y a un réel face-à-face qui se crée. Et je pense qu'on est encore une fois dans une envie de se faire rencontrer les gens. Pas forcément par des mots, mais ça peut être par des petits regards croisés. Voilà, dans le petit déjeuner, dans Au point du jour, c'est en partageant un petit déjeuner. Donc, on est vraiment dans cette envie de rencontre. Et vous parliez d'un petit côté politique. C'est vrai que ces 3 pans de vie explorés dans ce triptyque, pour moi, ils sont importants d'en parler justement de manière horizontale. C'est-à-dire que ces 3 pans de vie, pour moi, sont importants autant... la rencontre amoureuse, que la vie de parent, que le rapport à la solitude, le rapport à soi. Alors, je vais pas parler du rapport au travail parce que je pense qu'il est tellement surdéveloppé.
Il y en a déjà assez. On en fait déjà assez.
Je me suis dit qu'en fait, il y avait vraiment pas besoin d'en parler.
Bon, on va pouvoir reparler en tout cas de ces 3 spectacles puisque l'idée, c'est de pouvoir développer pendant cette émission un peu les intentions et comment vous avez travaillé. Tu as travaillé sur ces 3 spectacles. Peut-être préciser aussi qu'ici, pour cette interview, on est chez toi. Dans un endroit qui s'appelle Majdaye, qui est à Ruyé-Froidfond. C'est un endroit particulier, on n'est pas dans un village classique. Est-ce que tu peux nous dire comment toi t'es arrivé ici, dans cet endroit quand même un peu perdu, parce que tu n'es pas originaire de la Mayenne. Et qu'est-ce qui t'a fait atterrir ici et comment vous vivez ici?
Ce qui m'a fait déjà atterrir en Mayenne, c'est un accident en fait. C'est Vincent et moi, donc mon compagnon, avons acheté une roulotte en ruine et on cherchait un hangar pour la bricoler. Et des copains nous ont proposé la Mayenne et puis nous, on rêvait plutôt des Cévennes, puis des bords de Loire. Et en fait, la restauration de la roulotte a duré suffisamment longtemps pour qu'on se laisse séduire par les charmes mayennais. Autant
la séduction n'était pas immédiate, mais ça a infusé, quoi.
Ça a infusé, okay. Ça a très bien infusé, autant le rapport à la nature qui est vraiment magnifique ici que par les rencontres humaines où on se retrouve dans un milieu qui nous a semblé très humain, très modeste. Voilà, très proche notamment du réseau de tout ce qui est biologique, agricole. Et donc, on est arrivé à Majdaillé en court-circuitant du bouche à oreille. On nous a dit que peut-être un jour, cette ferme, elle sera à vendre. Et nous, on est passé un peu devant en disant on aimerait bien la visiter, ouais. Même si elle n'est ouais. peut-être pas encore à vendre, mais ça nous intéresse. Et donc, ça a été le coup de cœur parce que c'est un corps de ferme en bout de chemin, bordé de forêt, qui est une très belle forêt, le bois du Puy. Et on avait cette envie, après avoir été accueillis à gauche, à droite, en camion, en caravane, en roulotte, de pouvoir poser un pied à terre et aussi pouvoir permettre l'accueil de d'autres personnes qui ont besoin aussi d'être accueillies à court, moyen terme. Donc c'était important pour nous de redonner... la médaille, le revers de la médaille.
On vous avait accueilli, on vous avait aidé, il y avait l'envie de rendre l'appareil, quoi.
Ouais, exactement. Donc du coup, on est arrivé autour d'une maison collective qui tenait à peu près debout, en yourte et en roulotte. Et puis petit à petit, on restaure ce corps de ferme, grange, loge, boulangerie, soit cochon, pour se créer soit des habitats, soit... des lieux d'ateliers, des lieux d'entraînement. Il y a notamment un lieu qui s'appelle Le Grenier, où on accueille des activités socio-culturelles. Et un projet de brasserie aussi. Donc, c'est florissant. On est une petite quinzaine habitée là, adultes et enfants mélangés.
Super. Le décor est planté, la discussion est lancée et notre invité est présenté. Transistor l'émission, c'est parti.
Ancrés sur nos tignasses, serpents diadèmes nous entrelacent. Fais, serre le sang, mon serre de Mazi gado bobine tisane gorgone très souillée dévalant la falaise des fricheuses de rêves des chiffreuses sans trêve les tentacules mêlés à demi sœurs siamoises quand sur la peau des tambours en diseuse de sort, nous sortons Amazon de notre souricière, nous jouons en jumelles sur le fil de
tentacules mêlées, demi-sœur siamoise, cette chanson que tu as choisie, Chouniou, cette chanson du duo féminin Titi Zaro parle de vous, je crois, de la compagnie presque siamoise que tu as fondée en 2009 avec Flora Le Kemener, ta presque sœur siamoise d'ailleurs.
Mmh. Et ben effectivement, ouais, c'est une chanson qui a été écrite, Colleen Linder, une des chanteuses, m'a raconté, me recroisant quelques années après nous avoir vus en spectacle, m'a dit, bah voilà, on a écrit cette chanson après avoir vu Bertha et Miranda, les sœurs presque siamoises, donc c'est Bertha et Miranda, c'est
un peu le spectacle.
Ouais, c'est celui qui a vraiment donné le nom de la compagnie, d'où presque siamoises, parce que ce sont les personnages de deux presque siamoises qui sont là, qui effectivement s'entremêlent dans un univers forain et rocambolesque, avec beaucoup de tchatch. Et oui, en effet, je trouve qu'elle parle très bien à la fois d'une époque, celle où on était vraiment dans cet univers forain artistique, mais pas que artistique, c'est vraiment humainement, on vivait quelque chose de très fusionnel avec Flora. On a énormément tourné pendant des années, on n'avait aucun pied à terre, donc on se baladait.
C'était vraiment les forains pour le coup.
On se baladait. Ah oui, puis alors vraiment la première tournée avec la ZX, la remorque qui se déplie en scène, les matelas dans la remorque, on posait les matelas.
En même temps, il y avait un côté. C'était un rêve, non? C'était une sorte de rêve, ça, non? De vivre ça, en fait, finalement.
Mais il y avait. En tout cas, ce qui était sûr, c'est qu'il y avait une envie de jouer tellement forte qu'on ne s'est posé aucune question. À la fin de l'école, on est parti, on s'est dit, nous, on veut être les plus autonomes possibles. En plus, on était dans une école un peu plan-plan, qui visait plutôt de nous faire jouer dans des cabarets ou autres. Et donc nous, c'est vraiment pas de ça qu'on avait envie, puisque on mélangeait la contorsion à de la tchatch, ce qui se faisait très peu. Et on voulait créer un spectacle de rue pour jouer en rue et être le plus autonome possible. Le plus autonome et le plus proche du public aussi, parce que ce qui nous intéressait, c'était un peu de sortir la contorsion de la boîte de la télévision et de rendre un peu cette pratique plus humaine, plus proche des gens. Et en la rendant plus humaine, il y a quelque chose un peu qui se crée autour de l'étrange et du frics, forcément, parce que voilà, d'amener la contorsion aussi proche des gens, ça laisse forcément aucunement indifférent.
Avant cette rencontre avec Flora qui a lieu en 2006-2007, un moment où tu la rencontres à l'école, dans cette école que tu évoques, ça tu l'as décrit cette rencontre là comme ta quatrième naissance. J'évoquais tes cinq naissances au début de l'émission, mais il y a une première naissance avant. La toute première, c'est le 11 septembre 1987, c'est très précis. T'es née ce jour là à Mans. Et est-ce que tu nais dans une famille justement où il y a déjà des artistes, des gens qui pratiquent, qui écoutent, ou tu t'es une autodidacte et tu t'es fait toute seule autour de ça? C'est quoi le background en fait pour toi?
Eh bien, alors ils sont pas artistes de métier, mais mes deux parents ont une ouverture notamment à la musique. Mon père était trompettiste amateur et a beaucoup joué jusqu'à sa mort, donc j'avais 15 ans.
D'accord.
Et Isabelle, ma mère, aimait beaucoup la musique, entretient encore une relation à la musique quasiment spirituelle, quoi. C'est quelque chose qui s'écoute assis sur un fauteuil,
sans
les yeux fermés. C'est vraiment. Et donc moi, je crois que ça m'a guidée. Je sentais que il y avait quelque chose là.
Si c'était aussi important pour tes parents.
C'est ça, en tout cas, qui était à un certain niveau vibratoire qui semblait être intéressant. On était plus en train de faire de la dinette, on était en train de vivre quelque chose d'important. Ouais. Alors du coup, c'est sûr que moi, j'ai été assez fascinée vite par ces écoutes.
Est-ce qui fait que tu vas faire de la musique assez vite dans un conservatoire, j'imagine, une école de musique?
C'est ça, faire de la musique. Alors comme j'avais un tempérament un peu bordélique, et en tout cas voilà, très
dans tous les sens,
à n'écouter aucune règle, etc. Quand j'ai dit à ma mère que je voulais rentrer au conservatoire de piano, au début, voilà, elle s'est dit mauvaise idée, ça va la dégoûter. Puis j'ai suffisamment insisté pour qu'on tente le coup. Et en effet, ça a été pour moi, ça a été pour moi une super rencontre. Parce que donc, à ce conservatoire, j'ai pu rencontrer un professeur de chant, notamment.
Donc la deuxième naissance.
Deuxième naissance avec
la biographie.
Jean-Dominique Abrel, qui, voilà, qui avait une qualité... je dirais pas de pédagogue, parce qu'en fait, c'est bien au-delà de pédagogie. Mmh. Ouais. Mmh. C'est vraiment...
C'est une philosophie de vie,
il
presque.
Il nous prenait comme des êtres humains à part entière et non pas comme des enfants. Il n'avait pas de chorale enfantine en face de lui. Mmh. Et lui, il nous a dit direct, hein, moi, je ne suis pas là pour qu'on vous dise vous êtes mignon, vous êtes beau et que les parents applaudissent à la fin. Moi, ce que je veux faire avec vous, c'est de la musique avec un grand M. Et il y a vraiment quelque chose... Voilà,
il y avait une ambition qui vous tirait, quoi.
Il portait, qui vous valorisait. Il portait tellement en lui cette notion de l'art avec un grand A que les enfants étaient complètement pris, en fait, dans sa démarche. Et donc, on aboutissait à des... à une qualité musicale et de présence que c'est quand même extraordinaire de goûter à ça quand on a 13 ans, 12-13 ans.
Ouais. Ce que tu évoques aussi, c'est cet investissement intérieur qui vous demandait d'avoir. Et c'est quelque chose qui est très fort aujourd'hui chez toi. Enfin, quand on te voit dans ton travail, enfin, quand tu es sur scène, entre guillemets, on sent vraiment, c'est ça qui t'habite, quoi. T'es là, en fait, vraiment là, quoi.
Oui.
C'est vrai, et c'est né là à ce moment-là, en fait.
Mais je pense que oui, ça a beaucoup aidé. Ouais, c'est et vraiment de différencier le c'est joli, c'est mignon de en fait on est là pour quelque chose de bien plus important. Et ouais, je pense que j'ai toujours gardé ce truc-là.
Donc, ton intuition de faire le conservatoire de musique contre la vie de ta mère a changé ta vie quand même, parce que là il y a eu cette rencontre avec ce personnage, ce prof. Qui infuse encore.
Ouais, ouais, ouais. C'est sûr.
Et donc la musique, c'est très fort à ce moment-là. Et en même temps, tu fais de la danse aussi. Et il y a la découverte du cirque, qui est génial parce que le cirque, c'est tout. En fait, c'est le théâtre, c'est la danse, c'est la musique. On peut tout mettre dedans. C'est ça qui t'intéresse à ce moment-là. Et puis, il y a une école de cirque au Mans qui est chouette et dans laquelle tu peux apprendre aussi.
Ouais, c'est ça. Je pense que ça a été assez vite un coup de foudre par rapport à l'univers aussi. Et puis des personnes... c'était un couple qui tenait cette école de cirque.
Chien de cirque,
ouais. Avec qui je suis encore très en lien. Et oui, je pense que ça a changé mon rapport à la vie, mon rapport à la débrouillardise. Mon rapport, en fait, t'as un rêve, tu peux le construire. Il y avait vraiment quelque chose de très fluide chez eux. Ouais, de l'ordre un peu du rêve, le chapiteau.
Vous avez fait ce qu'ils voulaient faire.
Ouais. Il y avait vraiment
ça. Il démontrait qu'on pouvait.
C'est ça. Et il est pareil, en fait. Il te laissait toute la place. C'est pas parce que t'es un enfant que d'un coup, tu dois rêver petit. Non, t'as un grand rêve, vas-y, y a pas de problème, quoi. On est là, on te suit.
Et puis une exigence aussi. Dans ce que tu écris dans une bio, tu dis que la question qui t'est posée, c'est qui es-tu et qu'est-ce que tu as à dire, toi, qui veux être écouté.
C'est
une question qu'on pourrait poser à tous les artistes toujours, en fait. Et qui vous posait en tant que gamin, apprenant le jonglage.
Et oui. Ça, c'est vrai que c'était assez magique. C'est que c'était une école où ils n'ont pas forcément essayé de former des bons petits soldats aux écoles professionnelles, mais qui nous ont déjà posé les premières questions de base artistiques. Et du coup, il nous poussait chaque année, il nous invitait fortement chaque année à présenter un numéro. Et à chaque fois, c'était, mais bon, alors, donc tu veux faire un numéro, donc...
C'est quoi le propos ?
C'est quoi, en fait ?
Qu'est-ce
qu'il veut
dire ?
Pourquoi ? Et donc, c'était merveilleux d'être confronté à ces... Alors, bien sûr, il nous proposait déjà de mélanger avec... un apport musical avec de la danse ou du théâtre. Ils étaient déjà dans cette ouverture-là. On était très loin d'un rapport gymnique au cirque, ce qui peut exister dans certaines écoles de cirque loisirs.
Une dimension plus sportive, presque.
Plus sportive. Et puis, plus si des élèves sont intéressés pour faire une école professionnelle, ils les préparent vraiment. Alors là, pour le coup, je n'étais pas du tout préparée
et justement,
physiquement.
Ça fait le lien, parce que toi, du coup, à ce moment-là, tu vas opter. Là, on est en 2005, 2004. 2006, tu optes pour une école professionnelle de cirque, c'est le centre de formation professionnelle aux arts du cirque L'Homme, qui est près de Lille.
Ouais.
Et du coup, toi, t'arrives là-dedans et t'es pas prête, en fait, sur le plan physique, quoi.
Oui, j'avais en tout cas notamment préparé plusieurs... c'est des concours d'entrée où c'est vrai qu'il y en a pas mal où on m'a regardé un peu de côté en me disant « Mais pourquoi tu te présentes, en fait ?» Comment ça, tu sais pas faire de salto dans certaines écoles, là-bas, c'était rondade, flip, salto, et puis toute une série de musculation de dingue que j'étais incapable de faire et que je pense que j'ai jamais été capable de faire.
C'est ça, ouais.
Et parce que je m'en contrefiche. Mmh.
Il y avait l'envie de tenter l'aventure professionnelle quand même, en s'inscrivant dans une école comme ça, avec des parents qui te laissent cette possibilité-là. Maman, demain, je vais faire une école de cirque.
Voilà. Non, j'ai vraiment eu cette chance-là, ouais, qu'on me laisse le champ libre à l'oiseau de tenter. Parce qu'au début, je me suis pas mis martel en tête en me disant « C'est bon, c'est sûr, je vais être artiste de cirque.
Ouais, »
Non,
je me suis dit
« Je fais un an et puis je vois quoi. » Et en fait, au bout de quelques mois, il était évident que j'allais y rester pendant un moment.
Et là, en fait, tu découvres, parce que toi, tu es plutôt dans le trapèze ou les trucs comme ça, enfin, des trucs, ces disciplines-là du cirque. Et en fait, tu vas découvrir la contorsion, tu évoquais ça tout à l'heure. La contorsion, en fait, c'est cet art, en fait, où le corps, en fait, prend des positions complètement incroyables, complètement inattendues, qui, parfois, quand on les regarde, ça fait mal même de regarder ça. Et ça, c'est quelque chose que tu découvres là-bas, à l'école de l'homme, en fait, enfin, à l'école professionnelle que tu vas faire.
Oui, je découvre ça. Encore une histoire de proximité avec le public, en fait, parce qu'en effet, je faisais du tissu aérien. Donc, j'ai pu, jusqu'à un certain stade, pouvoir me sentir proche du public. Puis après, j'ai eu besoin de plus. Donc la contorsion déjà m'a intéressée à ce niveau-là parce que c'est une discipline sans agrès, une discipline sans agrès, proche du public, et parce que j'ai rencontré Flora Lequimener qui m'a fait revisiter complètement la contorsion. Déjà, Flora, elle a un corps de femme et non pas un corps de gamine asiatique, tout, donne une allure complètement différente.
Parce que ça aussi, c'est des corps particuliers, quoi, des corps un peu androgynes.
C'est ça.
Qui sont modelés finalement pour. Ça fait presque un peu peur, quoi.
Oui, de ce que je connaissais en tout cas à l'époque de la contorsion. C'était la première fois où je voyais une contorsionniste avec un corps de femme et qui plus est qui n'arrêtait pas de tchatcher en fait sur scène et en contorsion. Et je trouvais ça complètement. Ça me plaisait parce que ça sortait complètement de la norme, quoi. Et donc on quittait l'univers de la poupée. De la femme objet, et du coup, j'étais ravie.
Mais du coup, tu t'es dit, moi aussi, je fais ça, quoi.
Mais en tout cas, on s'est rencontrés humainement et on a commencé à vouloir essayer des choses, des figures ensemble. Et c'est là où on a commencé à regarder des vidéos de petites chinoises, justement, qui se superposaient, qui se montaient dessus. Où on trouvait ça complètement délirant. Et du coup, on a repris un peu à notre sauce.
Avec une forme d'ironie, de parodie, peut-être.
Ces figures ultra traditionnelles, en fait, on les a repris à notre sauce, plutôt sauce foraine à l'époque.
Dans la contorsion, il y a ce côté un peu surhumain, quoi, en fait. Où tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, mais jamais, enfin, on n'arrivera jamais à faire ça. Et en même temps, tu dis, à un endroit, je ne sais plus où, que ce qui te parle aussi dans la contorsion, finalement, c'est. Que finalement on exprime par le corps, par l'extérieur, toutes ces contorsions que finalement on a tous par contre en soi, et qu'en fait c'est une façon de par un langage corporel de l'exprimer de façon hyper directe en fait, sans mots, sans... Il y a ça c'est quelque chose qui guide aussi.
Exactement. Oui, c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'anime depuis le début, c'est le corps dans le prolongement des mots, et du coup c'est via ces contorsions, c'est comment exprimer toutes les volutes que nos intérieurs émotionnels nous provoquent. You must know that moment when the miserable world cracks open. You finally meet someone. Suddenly the chapters are written. 6 months with nothing other
the nebivé and the jug of a war. It's a chemical checkpoint, baby. We've got the winning number. Of love before the truth comes spilling out, before you open your big mouth. One of the finest things in life, gone on a serotonin ride. God knows I've waited long enough. Give me the first 6 months of love. Begin the dissections before the therapy sessions. We danced the night we met. Now we need dancing lessons. Remember how it all began. We must not let habits set in. Come up the stairs. Let's recommence the first 6 months over again. Spilling out before you open your big mouth. One of the finest things in life, gone on a serotonin ride. Babe, if we gonna stick it out, give me the first 6 months of love.
Russo-canadienne Michelle Gurevitch dans cette superbe chanson qui évoque les débuts de d'une relation amoureuse. Une chanson que tu as choisie, Shunyo, parce qu'elle fait écho à Fallin, un spectacle de la compagnie Presque Siamois, qui est créé récemment, en 2021, et qui parle justement de cette relation amoureuse et de comment en fait on tombe. Fallin, c'est le titre, comment on tombe amoureux. Ce spectacle, comme les précédents, parce qu'il y en a eu, d'autres. On a parlé là de Bertha et Miranda, qui a été le premier spectacle de la compagnie. Il y en a eu trois autres après. Ce spectacle-là, comme ces trois autres-là, il y a des invariants. Il y a la volonté de jouer dans la rue. Il y a la volonté d'être dans la proximité. Tu évoquais ça tout à l'heure, d'être au plus près du public. Et puis il y a aussi la volonté de ne pas être dans les codes habituels, frontaux, le public d'un côté, la scène, les artistes sur scène de l'autre. Puisque dans Fallin, il y a aussi un côté bifrontal. Et si on évoque un autre spectacle au point du jour, là, carrément, c'est un petit déj dans lequel vous intégrez, enfin, vous insérez. Alors, je ne sais pas, on peut en parler un peu de ce spectacle-là, justement. Ça procède de ça, de cette envie de... Et puis, l'idée aussi, c'était, avec ce spectacle-là, c'était pas jouer le soir, dans le cadre habituel d'un spectacle, mais d'être à un endroit où, finalement, on voit rarement un spectacle le matin. Donc c'est ça, c'est cette envie d'être hors des codes habituels du spectacle.
Oui, au point du jour, le point de départ, c'était vraiment travailler sur le rythme quotidien qu'on a un peu l'habitude de faire, c'est-à-dire qu'on commence
la routine du matin.
C'est ça, on commence souvent par une longue liste de choses qu'on a à faire. On travaille. Et si on a de la chance et qu'il nous reste un petit peu d'énergie, le soir, avant de se coucher, on s'offre un spectacle, un film, un bouquin, une sortie, ouais. un resto. Mmh. Ouais, donc, on garde le meilleur pour la fin, si tant est qu'il reste de l'énergie à la fin
ça.
de la journée.
C'est ça, ce qui n'est pas toujours le cas.
Et donc, on s'est dit, mais non, en fait. Et si on commençait avec le meilleur, quel visage prennent nos journées Et en effet, c'est les principaux retours qu'on a sur ce spectacle, c'est se dire, mais oh, c'est tellement bien de commencer la journée par ça. Commencer par prendre le temps, commencer par un moment de convivialité, un moment de douceur, de poésie. Et en effet, ça change la face de la journée. Et c'est vraiment très intéressant.
Ouais, puis finalement, le matin, c'est un moment où on est très disponible.
Et oui,
peut-être plus disponible que le soir, où finalement, on est fatigué par notre journée, par tout ce qu'on a traversé. Là, on arrive presque...
Il y a... Enfin, ce que je racontais dans un dossier de spectacle, je crois. Il y a vraiment l'idée que nos masques sociaux sont amenuisés à ce moment-là.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, pendant ce petit-déj, à la fois, on prend soin de ces intimités qui se réveillent, justement, qui n'ont pas forcément encore toute leur carapace. Donc, on prend soin de pas... On n'est pas direct dans un repas à la bonne franquette. Il y a vraiment quelque chose d'abord de très solitaire, de très intérieur, un moment pour soi. Et au fur et à mesure, durant l'heure du petit déjeuner, viennent se tisser des liens. Voilà, la convivialité naît petit à petit.
C'est comme ça que ça se passe dans le spectacle. Il y a vraiment cette idée que les gens sont autour d'une table en train de boire un café et vous débarquez... Et c'est la table finalement qui est la scène. Ça se passe comment concrètement?
Mais c'est autour d'un comptoir, d'un grand comptoir circulaire.
D'accord, donc, que vous avez conçu.
Oui, qu'on a conçu et qu'on circule à la fois à l'intérieur de ce comptoir et à l'extérieur. Ouais, et autour. Et on a vraiment placé on parlait du rapport au public, on a vraiment placé pour cette création le public au centre de la création. C'est-à-dire que c'est plus qu'est-ce que nous avons à dire, nous artistes, mais qu'est-ce que le public a besoin de vivre. Donc c'est alors forcément.
Alors ça veut dire que tout n'est pas écrit alors. C'est ça. C'est que.
Alors oui, il y a pas mal de zones d'impro.
Ouais,
oui, il y a des zones d'impro, des zones d'imprévu, bien sûr, puisque le public a vraiment sa place et c'est lui qui mène le rythme finalement du spectacle en fonction de la vitesse à laquelle il mange son œuf à la coque. Mais.
Tout simplement.
Mais oui, ça nous intéressait vraiment beaucoup d'être au service du public. Et ça se traduit par des heures et des heures de préparation du petit-déj.
Voilà, oui, parce que c'est vous qui préparez le petit-déj aussi.
Bien sûr, bien
D'accord.
sûr.
Ok.
Bien sûr, c'est nous qui préparons le petit-déj.
Ah, oui.
Et c'est en cela très agréable. C'est-à-dire que quand le public arrive, il y a quelque
vraiment
chose...
une notion d'accueil, quoi.
Mais il y a une notion d'accueil et puis il y a une notion où c'est comme si nous, on avait fini notre job, que le plus gros du job, il est fait
D'accord.
avant que
ouais.
le public arrive.
Okay.
Et quand le public arrive, il n'y a plus qu'à laisser faire, laisser se dérouler. Ce qui est une expérience très agréable en tant qu'artiste parce qu'on a plutôt... Enfin, jusqu'alors, j'avais plutôt l'expérience du « il ne se passe rien, il ne se passe rien, il ne se passe rien, je me prépare, je me prépare, le public arrive et là, je dois tout prouver, je dois tout donner. En, des fois, si on est en format numéro de cirque en 7 minutes, donc, ce qui est extrêmement court, des fois en une demi-heure.
De fou.
De fou, de fou, de fou. Et donc, du coup, qui limite un état de présence. Alors que là, du coup, en fait, on sait qu'on a déjà tout donné. Le public arrive et on n'a plus qu'à être présent. Et du coup, c'est une démarche...
Et ça, tu le savais avant de le faire ou c'est vraiment en faisant que...
Non, c'est en faisant qu'on découvre, bien sûr. Il faut se garder de la magie.
Mais c'est chouette, du coup. C'est aussi des intuitions quoi, qui parfois amènent, amènent à ce type de constat.
Et... Ouais, bah, c'est vraiment le petit bout de fil qui dépasse, qui questionne et puis, ou qui agace. Et puis on tire dessus, on tire dessus. Et en fait, y a des kilomètres et des kilomètres de découverte derrière. Quoi.
C'est souvent comme ça que tu travailles. Il y a un questionnement, quelque chose, comme tu dis, un agacement, quelque chose qui ne va pas. Quoi.
En tout cas, quelque chose qui titille.
Et
c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre du titillement, parce que ça soit au point du jour où il y a un petit agacement au constat
c'est
de
quoi,
dire...
C'est une journée qui commence par des to-do list.
C'est ça, par des to-do list, pourquoi on garde le meilleur par la fin.
C'est une excellente question.
Et je crois que pareil, dans ces histoires de triptyque, parce que le triptyque, il est né d'abord de l'envie... De parler d'amour avec
parlons-en de Fall In justement de
avec
ce
Vincent
là.
Et ça du coup c'est vrai que Eh bien, ça n'a pas été si évident à placer. Parce qu'en fait, parler d'amour aujourd'hui dans une situation on ne peut plus banale qu'on vit, Vincent et moi, c'est-à-dire un couple avec enfant, avec maison,
marié.
En fait, c'est complètement contre l'air du temps. Il y a un truc où...
Même contre toi, c'est ce que tu aurais imaginé.
Et contre moi, contre ce que j'ai voulu vivre à la base de manière très intellectuelle. C'était pas du tout dans ce schéma-là que je me projetais. Et donc, je trouvais ça super de me dire non, mais si, on va quand même en parler, parce qu'en fait, je suis sûr qu'il y a encore quelque chose à dire, même si on en a parlé
des milliers de fois.
Ouais,
comment dire quelque chose à moi là-dessus.
J'ai l'impression qu'il y a vraiment, d'autant plus que j'ai vécu justement ce moment de lutte entre mon mental qui n'a pas du tout envie de ça et mon cœur qui me dirige que vers ça. Donc voilà, cette lutte, elle a existé parce que tout un contexte. Et donc, je pense que dans ce contexte-là, c'est encore
important.
Est-ce
que tu as eu besoin de réfléchir à ça, justement ? Essayer de comprendre, toi, justement, entre ce que tu dis, cette sorte de déchirement qu'il y a entre ces aspirations un peu philosophiques et en même temps, ton cœur, comme tu dis, et la vie qui t'emmène vers un truc que tu n'avais pas pensé. Est-ce que tu as eu un besoin à un moment de te dire, mais en fait, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est ça qui a procédé
je me suis posé, qu'est-ce
à l'écriture
qui se passe
de ce spectacle ?
Mais en fait, je pense qu'il n'y a aucune compréhension à voir. Ce que j'ai vu, justement, c'est ça. C'est d'accord. Que juste, je regarde, je constate, je vois, j'accueille. Et c'est OK, je peux voir... Quels ont été les freins ? Les freins, c'était plutôt dans une histoire de mental, de schéma.
De modèle.
Et encore une fois, de schéma peut-être révolutionnaire, mais en fait, c'est un schéma. Et donc, comme tout schéma, à un moment donné, quand tu veux
il
rentrer dedans,
il
y a de la douleur. Et quand tu les oublies, en fait, tout va bien.
Et du coup, c'est né ce spectacle Folline de ces réflexions-là, un moment où aussi on est en plein confinement, parce que ça s'est créé en 2021. Et comment c'est venu l'idée d'associer Vincent, donc ton compagnon, qui lui n'est pas comédien, n'est pas contorsionniste, et c'était dès le départ, et puis c'est pas évident en plus de raconter son histoire là pour le coup, t'aurais pu raconter ça avec un autre comédien, il y aurait une sorte de mise à distance qui aurait pu être intéressante aussi, mais là non, il y a l'idée d'aller au bout, et c'est carrément lui qui est là, alors qu'il a jamais fait de scène, et du coup voilà comment c'est né cette envie de prise de risque, et finalement j'imagine que t'es heureuse de ce choix, mais...
Oui, je suis très heureuse de choix. Je suis très heureuse de choix à plein de niveaux. Mais en tout cas, artistiquement, ce qui s'est passé, c'est ce que je racontais aussi au début. C'est comment de ces petits riens, de ces petites personnes, de ces... c'est pas anti-héros, mais en tout cas de ces gens lambda, en fait, on va créer quelque chose de beau et d'extraordinaire. Comment mettre en lumière, justement, ces banalités qui sont en fait merveilleuses à regarder.
Si tant est qu'on s'arrête dessus.
C'est ça. Et donc, du coup, pour moi, faire parler un non-comédien et faire danser un non-danseur, je trouve ça vraiment précieux parce que là, on a toute la rugosité, toute
comme
la
fragilité. Un cinéaste qui va aller appeler un comédien non-professionnel parce qu'il va amener quelque chose de spontané, de fragile, mais qui est fort, en fait.
Ouais, exactement. Je pense qu'après, du coup, le reste du boulot, il est à faire par l'auteur. Et quoi écrire par rapport à la personne qu'on a en face ? C'est pas j'écris, et puis je trouve le comédien qui va avec. C'est j'ai la personne qui va jouer, et qu'est-ce que je peux lui faire dire ? Qu'est-ce que je peux lui faire faire ? Et du coup, l'écriture a été vraiment basée là-dessus tout du long. Qu'est-ce qu'ensemble, tous les deux, on peut réussir à dire, on peut réussir à danser.
J'imagine qu'il y a eu aussi une écriture collective, que tu as pu te baser aussi parfois sur des ressentis que Vincent pouvait exprimer, ou non, vraiment, ça vient de toi et de ton ressenti à toi.
Comme l'histoire est quand même largement inspirée de faits réels, il y a eu forcément des moments de discussion autour de ce qu'on a vécu.
C'est
après, c'est la mise en forme, elle vient de moi, encore une fois, parce que les années d'écriture ont fait qu'au bout d'un moment, je sens ce qu'il y a de plus fluide, ce qui sera le plus fluide et pour lui à dire et le plus intense pour le public à recevoir.
L'écriture chez toi, elle naît comment ? C'est une écriture qui, comme on dit, qui vient au plateau pendant qu'on travaille et finalement les choses viennent en jouant par le corps, Ou est-ce que c'est plutôt un truc plus intellectuel où tu te mets à une table et tu te dis, bon, qu'est-ce que je vais raconter sur ce spectacle? Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce n'est pas des spectacles de contorsion, en fait, seulement. Enfin, y a, tu mêles, vous mêlez le langage du corps, mais aussi le langage du texte, qui est très fort, notamment dans les trois derniers spectacles. Le langage de la musique aussi, qui intervient, que vous pouvez faire en direct. Voilà, donc il y a tout ça qui se mêle dans les spectacles. Mais le rapport à l'écriture, chez toi, comment, de quel ordre il est?
Mais c'est une bonne question parce que je pense que ça dépend des spectacles. Donc oui, il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui sortent au plateau. Mmh, mmh. Et pour le dernier volet sur la solitude, c'est d'abord beaucoup de temps d'écriture. Donc ça dépend et c'est encore un domaine où je cherche énormément. Et j'ai un petit souhait pour les années à venir, c'est de pouvoir écrire justement... pour autre chose que des spectacles, afin de me découvrir plus là-dedans. Parce que pour l'instant, je suis vraiment dans l'écriture, où j'ai déjà un projet sous la main, et du coup, c'est...
Quelque chose d'utilitaire, d'utilitariste un peu.
C'est ça, il y a vraiment quelque chose où voilà, j'ai un but, je sais que je veux parler de ça, j'ai déjà l'équipe artistique, j'ai déjà beaucoup de choses, et donc du coup, quel texte peut émerger de ça? Et ce qui est énormément plaisant, mais que je sens que je suis dans ma zone un peu de confort et de maîtrise, et j'aimerais bien goûter à autre chose.
Et en tout cas, il y a une recherche dans l'écriture, mais aussi dans ce spectacle Fall-in, puisqu'il y a ce nom professionnel, on va dire comme ça. On parlait de la fragilité que ça apportait, mais dans l'écriture aussi, il y a cette volonté de ne pas être dans quelque chose de très écrit. Qui aurait été écrit, relu, re-relu. Il y a cette volonté d'être dans quelque chose d'assez spontané aussi, je crois, dans l'écriture, dans quelque chose qui est de l'ordre du ressenti, de la parole, en fait.
Mais exactement, c'est, c'est vraiment ça. C'est du coup quand... Alors, je ne parlerai pas de non professionnel, mais plutôt de non formé, dans le sens non formaté.
Oui, c'est plus juste.
Parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse, être hors format. Mais du coup, oui, c'est comment... Du coup, on tombe sur une parole finalement assez naturelle. Mais même, c'est ça la magie du spectacle. C'est qu'à un moment donné, la parole qui est livrée, on a l'impression qu'elle est dite de manière...
Spontanée. Naturelle.
En fait, elle est très écrite parce qu'on est dans quelque chose de très fin et de très écrit. Comment trouver... les mots, tout en ce que ça paraisse le plus naturel possible.
Les nouveaux murs de la maison, sous la peinture et les faux plafonds, notre futur en question. Le souvenir de mes vies premières, troupeau de moutons de poussière, mes gravats de célibataire. Et cet enfant qui pleure, qui mange kilo de lait, kilo de l'ange. Et tout cet amour en échange. J'espère, c'est peu de le dire. J'espère que tout ça va tenir. Sur mes épaules, mes épaules, mes épaules. Pas bien carrées, mes épaules, mes épaules, mes épaules. Pas bien gaulé, pas baraqué, pas balèze. L'amour, l'humour, l'humeur égale, les deux ampoules sur ton visage qui s'illumine quand je pédale. Le poids de mon nom ridicule, de ce fantôme à particules qui avance quand je recule. J'espère, c'est peu de le dire. J'espère que tout ça va tenir. Sur mes épaules, mes épaules, mes épaules. Pas bien carré, mes épaules, mes épaules, mes épaules. Pas bien gaulé, pas baraqué. Sur mes épaules. Gagner.
pas baraquer. Pour mes épaules,
mes épaules,
mes épaules,
mes épaules,
mes épaules,
mes épaules.
Pas bien gauler, pas baraquer. Les nouveaux murs de la maison, sous la peinture et les faux plafonds, notre futur en question.
Mes épaules, par Albin de la Simone. Cette chanson Chougno, elle parle très bien de ce qu'interroge et regarde ton dernier spectacle, Carry On. Être parent, c'est une aventure à laquelle on n'est jamais préparé, où on se retrouve à porter sur ses frêles épaules la destinée d'un enfant quand même. Et c'est encore un lien direct avec ta vie qui a donné lieu à ce spectacle-là, puisque si on reprend le fil des naissances, ta cinquième naissance, finalement, c'est celle où tu donnes naissance à des enfants. Et c'est ça qui va inspirer ce nouveau spectacle, Carry On.
Eh oui, oui, oui. Mais ouais, alors encore une fois, on parlait des fils qui dépassent et qui titillent et qui agacent.
Alors c'est lequel celui-là?
Eh bien celui-là, du coup, c'est... ouais, c'est ça a été un moment où notre cher président a souhaité intervenir et interdire l'instruction aux familles.
Ouais, l'école à la maison.
L'école à la maison, l'instruction aux familles. Et alors, moi déjà, ça faisait un petit moment que je commençais à être dans l'incompréhension en fait, de ce que je vivais en étant maman, où j'avais l'impression que tout mon entourage me montrait que être maman, c'est avant tout trouver le moyen de faire sans son enfant.
Ouais, de se débarrasser.
Et donc, vite, vite de le mettre à la garderie, ouais. Vite, vite de le mettre à l'école, vite, vite.
Et 3 mois hein, pour la garde de l'enfant, c'est rien quoi. Enfin,
alors du coup, je dis pas que je supportais très bien être mère au foyer, loin de là. Mais plus mon entourage me poussait à me dire, mais en fait, il faut que tu te sépares de tes enfants. Moi, je comprenais. Et puis en parallèle, je voyais des personnes âgées isolées et je me suis dit, mais on va où en fait avec ces générations isolées? Moi, j'ai pas envie que y ait tous les adultes qui se retrouvent dans des bureaux en train de travailler, et tous les enfants à la garderie, à l'école, et tous les vieux dans des EHPAD. Il y avait quelque chose où je trouvais ça insensé. On engendre, on a de cesse que d'engendrer la vie, d'engendrer des petits êtres humains pour ensuite les caser d'un côté dans un autre. Et du bon, voilà. Et donc ça a été le petit fille qui titillait.
Ouais. Comment après, t'as voulu parler de ça?
Et après, j'ai tiré
là, la
sur
forme,
ce
elle
film.
Est très originale pour le coup.
Ouais.
Au point du jour, vous intervenez dans un petit déj. Bon, déjà, on est dans quelque chose d'assez atypique. Mais là, pour le coup, c'est carrément des parents qui sont en scène, que tu prépares, enfin avec qui tu prépares le spectacle, mais c'est quand même eux qui sont sur scène, que tu accompagnes. Ouais. Toi, tu es aussi présente avec tes enfants sur scène.
Oui, effectivement.
Mais là, vous êtes donc il y a 8 parents, je crois, en plus de toi et de ton compagnon et tes enfants. Ouais. Mais cette idée aussi de quelque chose de complètement participatif, c'était une manière de répondre à ces questions justement et de.
Ben ouais, moi,
pas surplomber le sujet.
L'idée, c'était de faire avec les enfants, avec mes enfants. Et en fait, par extension, très vite, je me suis dit, mais c'est sympa, tu vas vivre une super aventure, toi toute seule avec tes enfants et ton
égoïste,
compagnon.
Presque, se mettre
mais
en scène.
Si vraiment tu veux aller un peu plus de l'avant dans un acte, entre guillemets, très légèrement politiquement engagé, si on veut dire, on peut en faire bénéficier d'autres gens et goûter à cette expérience de vivre des choses avec ses enfants.
Il y avait une envie de partage là qui est toujours présente dans tous les projets, mais là ça va encore plus loin, c'est que le public,
c'est ça.
Vous partagez avec eux, mais là ils sont carrément...
Donc
partager
vraiment,
le spectacle
partager ce vécu d'être, de vivre avec ses enfants, de faire quelque chose pour soi, parce que c'est un spectacle quand même qui est... le focus est sur le parent et non sur l'enfant et sur la relation entre les deux. C'est vraiment sur le parent, qu'est-ce que le parent traverse. Et pour moi, c'était important aussi d'en parler avec d'autres parents-enfants, parce que ce qui m'intéresse dans la parentalité, c'est de voir que justement, chacun se bidouille boutique en fonction de qui il est, avec cette fonction qu'il ne connaît pas et qui se retrouve avec cette fonction entre les bras en même temps que
son
bébé. On n'apprend
pas
quoi.
En plus, hein, il n'y a pas d'école.
Non, oui, c'est ça, il n'y a pas d'école. Et tant mieux.
Oui, bien sûr.
Parce que justement, quand on commence à nous dire normalement c'est comme ci, normalement c'est comme ça, c'est moi encore une fois ce que j'ai vécu, c'est là où ça m'embrouille quoi. Quand j'essaye de faire rentrer mon enfant dans un certain schéma, la mère que je suis en train de venir dans un certain schéma, c'est là où je perds les pédales complètement.
Bah, Dolto, elle dit que de toute façon, ce qui compte, c'est l'intuition.
C'est ça. Et donc ce qui m'intéresse, c'est la parentalité, la diversité de la parentalité. Et donc, pour ne pas en parler avec des mots un peu pompeux, il suffit juste.
Il y a une littérature aussi conséquente là-dessus.
La donner à voir. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est donner à voir cette parentalité dans la singularité, la diversité. Et c'est pour ça qu'on est 10 parents-enfants à jouer.
Donc il y a des ateliers
spectacle.
Qui se font en amont quand même, ça se fait pas en direct live.
Non, pas en
et
direct
comment t'arrives
live.
Comment tu arrives à trouver les. Parce que ça pourrait être nul quoi. Enfin, je veux dire, vous pourriez faire un atelier et puis les gens arriveraient, feraient un petit truc. On a l'impression de regarder un spectacle de fin d'année.
De kermesse, alors exactement.
Et
moi, c'est vraiment
qu'est-ce
ça.
Qu'est-ce que tu as trouvé comme dispositif entre guillemets pour justement à trouver la poésie de tout ça, ou je sais pas, enfin, quelque chose qui est signifiant quoi.
Eh bien, je pense qu'avant tout, ça passe forcément par une intelligence dans la forme, mais les ateliers, ils sont là pour aborder la matière qu'on va exposer sur scène, enfin sur scène dans la rue, mais aussi et surtout pour y amener du fond. Comment donc ça, c'est vraiment par rapport aux parents qu'on insiste, c'est... tout le sens qu'on amène sur scène à ce moment-là. Et souvent, je l'ai nourri de beaucoup d'images, de l'image du chemin, de l'image du poids, de l'image, tant d'images qui viennent forcément en résonance avec ce qu'on vit en tant que parent. Et du coup, ils arrivent avec une qualité, en fait, sur scène, quasi de comédien. Oui, la forme, elle est ce qu'elle est. Parce que voilà, des fois on marche pas comme on voudrait, on parle pas comme on voudrait.
Ils savent pourquoi ils sont là en fait.
C'est ça. Mais le fond est là. Et donc on n'est plus du tout sur un. On n'est plus du tout à la kermesse. Et c'est vrai que moi ça a été un de mes.
Ouais, je te l'ai dit un peu directement, mais.
Ah non, ouais. Mais assez drôle parce que c'est vraiment exactement. Pendant toute la création, je me suis dit halte à la kermesse. Vraiment.
C'est le risque.
Et alors, après, c'est aussi. Dans quel événement on joue
le cadre.
Voilà, le cadre. Si on est dans une fête de l'école ou fête à la saucisse, là, on...
Ça peut dériver.
On va forcément... Et pareil, c'est aussi préparer le public. Je dis aux participants, si vous avez du monde qui vient voir, lâchez les téléphones, lâchez la vidéo. Nous, on s'en occupe. L'organisateur va faire une petite vidéo souvenir. On veut que le public reçoive l'émotion. On n'est pas là parce que c'est joli, c'est sympa ce qu'on fait. Quoi.
Alors, troisième pièce du triptyque que tu as démarré avec Folline, ton prochain spectacle donc, qui s'intitulera Comeback, ça sera un solo où tu vas explorer les joies dont peut être porteuse de la solitude, qui est plutôt un terme en général qui induit quelque chose de négatif. Et ces joies de la solitude... Bird in a Wire les chante divinement dans cette très belle version de O Solitude, de Purcell.
Oh solitude, my sweetest choice. My sweetest choice, places devoted to the night, remote from tumult and from noise. Thoughts delight.
La solitude peut être un choix et une source de bonheur, un retour à soi finalement, à ses envies, à son être profond. Et c'est ce que dit cette chanson de Purcell, enfin, qui a été mise en musique par Purcell. Et c'est aussi cette relation-là à la solitude qui est à l'origine de la prochaine création de la compagnie presque siamoise, Shunyo. C'est ça, vraiment, c'était cette envie de se retrouver seul, pour finalement se reconnecter à ce qu'on est profondément et que parfois on oublie.
Et c'est vraiment quelque chose, c'est une création. Enfin, l'idée de ce troisième volet a découlé des deux premiers parce que il y avait quelque chose de pas juste de parler juste de la relation amoureuse et de la vie de parents. Je sentais que ça marchait pas, quoi.
Attends, le spectacle marche quand même.
Je pouvais pas m'arrêter.
Ça suffisait pas.
Je pouvais pas m'arrêter à là. Si je parle de ces deux premiers, il fallait forcément que j'en ponde un troisième. Parce qu'il y a le fond de tarte. Et le fond de tarte, pour moi, c'est le rapport à soi, la solitude. Ce que j'appelle la solitude, ça peut être une solitude, bien sûr, concrète, mais ça peut être aussi une solitude, même quand on est entouré. Comment être encore en présence à soi, présence à soi. Et ça, c'est vraiment important parce que je vois qu'on peut vite, en fait, s'oublier dans des identifications de rôles. Je suis la maman, je suis l'artiste, je suis la femme de...
On joue un rôle.
En fait, il suffit qu'une séparation, il suffit que ton enfant il parte de son foyer, il suffit d'un licenciement. Et en fait, d'un coup, tu as l'impression d'être plus personne parce que tu as perdu... t'as perdu le contact avec, avec toi-même. Et donc, c'est vraiment ça qui m'intéressait de raconter. Après, je ne sais pas si je vais avoir quelque chose de précis à en dire, mais en tout cas, je sentais que je ne pouvais pas m'arrêter à ces deux premiers volets et que du coup, bah, je me suis offert la possibilité de prendre le temps pour explorer ce pan-là qui m'est cher, mais qui, comme tout à chacun, se laisse grignoter très largement par tous les autres pans de la vie. Hein. Je suis vraiment pas à l'abri du tout. Et c'est pour ça que pendant toutes mes résidences de création cette année, j'ai choisi en très grande partie la solitude pour pouvoir y goûter, donc pouvoir parler de cet endroit de la solitude sans mensonge, vraiment être dans aussi confronté, être dans les sensations. Et oui, pour moi, c'est très positif, cette solitude. Après, ça ne veut pas dire que ça se passe toujours dans la joie. Ça peut être aussi des fois dans la tristesse ou dans la douleur, mais c'est positif. Mais c'est pour un résultat joyeux. Il y a vraiment quelque chose de ça.
C'est un travail d'introspection ?
Un travail, oui, d'introspection et de dénuement, je dirais. D'enlever les masques, justement, d'enlever les rôles, d'enlever les masques. Peut-être encore plus, encore et encore, aller dans mes zones de sincérité et donc de fragilité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas évident, je trouve, à reconstruire, à déconstruire quand ça fait déjà un petit moment qu'on joue, qu'on a nos zones de confort,
On se formate.
Qu'on sait que quand on dit comme ça, ça sonne juste, on dit ça, on peut croire que ça vient du cœur. Mais en fait, non, là, j'ai envie de faire un pas encore plus dans la direction de cette sincérité-là. Et waouh, c'est pas évident, c'est un travail très fin.
Fait, t'arrives sur une résidence, tu sais pas forcément ce qui va se passer.
Oui, surtout sur...
On pourrait croire que les gens arrivent comme ça, les artistes, moi je te coupe, sont déjà dans un plan très précis, je travaille ça aujourd'hui, là ça sera la scène temps, la scène 12, la scène 15. Non, toi t'arrives, en tout cas dans le travail de création, après bien sûr il y a cette phase-là quand même, mais il y a d'abord une phase de recherche. C'est intéressant parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça, mais comment on travaille quand on est artiste, et surtout sur des spectacles où il y a une dimension corporelle très forte, donc comment ça s'écrit, quoi.
Eh bien, effectivement, mais après je pense que tous les auteurs sont différents, tous les artistes sont différents. Moi, et encore plus avec cette création sur la solitude, c'est la page blanche, quoi. C'est la grosse page blanche, parce que justement c'est comment s'enlever au maximum ces appuis pour dévoiler le plus ce qui demeure, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui demeure, qu'est-ce qui reste, qu'est-ce qui reste quand on enlève tout notre savoir, toute notre technicité de comédien, de circassien, de danseur. Qu'est-ce qui reste? Et donc, ouais, je pars pas mal de la page blanche et je me laisse guider. Il y a vraiment... il y a quelqu'un qui m'inspire beaucoup là-dessus, c'est Christian Bobin, qui a été interrogé par Marie de Solène autour de la solitude, et c'est un écrivain très solitaire, et qui dit, mais moi je passe des journées en fait à lire des journaux, à pas faire grand chose, parce que je sais qu'à un moment donné la grâce va arriver. D'ailleurs le livre c'est La grâce de solitude, et la grâce va arriver et je vais pouvoir écrire. Et j'ai vraiment essayé d'oser expérimenter ça dans mes résidences. Et en effet, il y a des moments, t'es accueilli, on te donne de l'argent
pour travailler. Et tu lis des journaux. Ah bah d'accord.
Et t'es dans cette pièce qu'on t'a donnée. Et
tu peux te sentir un peu illégitime, quoi.
Exactement. Alors moi, pendant des années, je me suis sentie illégitime. Donc j'étais dans la productivité, à essayer d'écrire. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire?
Remplir.
Remplir. Et là, je joue vraiment le jeu d'arriver à cette zone vertigineuse de « il ne se passe rien, il ne se passe rien ». Et en effet, Christian Bobin a bien raison. À un moment donné, il se passe quelque chose. Et c'est le flow, et on peut écrire, et on peut commencer à...
Et Aurel San, dans un autre registre, quand il y a un film qui a été fait sur son dernier album, où il dit ça, quoi. À un moment, dans le film, il dit, j'ai rien, en fait, c'est nul, quoi. Mon album, il est pas écrit, en fait, je vais pas y arriver, en fait. Ouais. Et il dit, en même temps, qu'il sait qu'à un moment, ça va venir. Mais qu'il faut passer par cette phase, en fait, de presque découragement, qui va nous aider, finalement, à rebondir. Mais c'est vrai que ça doit être psychologiquement pas toujours simple.
Ouais. Et en même temps, je pense que c'est vraiment le seul et unique travail qu'on a à faire en tant qu'auteur, c'est se placer dans une zone de réceptivité.
Être une antenne.
Et non plus d'être dans une zone de productivité.
Ok, on va conclure sur cette belle phrase. Merci Chougno, en tout cas, pour cet échange, pour ton accueil ici, et puis aussi pour le temps que tu nous as accordé.
Avec plaisir.
On va pouvoir tous... ici en Mayenne, retrouver la plupart des spectacles qu'on a évoqués au cours de cette interview dans la programmation de plusieurs saisons culturelles en Mayenne. Alors j'ai noté quelques dates, mais on pourra retrouver l'ensemble du calendrier sur votre site internet presquesiamoise.fr. mais on peut noter dans ce qui vient le plus près, le 20 janvier, il y aura Fauline qui sera présentée au Théâtre des Trois Chênes, enfin en tout cas oui. Programmée par le Théâtre des Trois Chênes à Loiron. On va aussi pouvoir voir au Point du Jour, qu'on évoquait tout à l'heure, le spectacle le matin, un petit déjeuner, donc qui est programmé aussi par le Théâtre des Trois Chênes. Et puis il y a la saison culturelle de Cran qui vous accueille aussi avec Fauline et Carillon, justement, dont exact. On parlait aussi. Donc voilà, tous ces rendez-vous-là, on vous y invite chaleureusement pour découvrir ce travail dont on en a parlé simplement en mots, mais là, vous pourrez avoir les images et la bande-son. En tout cas, un grand merci aussi à Anthony et à Joël à l'autre radio pour leur aide et pour la réalisation de cette émission. On se retrouve en février. D'ici là, bien sûr, faites de beaux rêves.